Aujourd'hui, on va commencer un texte, Bezrat Hashem, qui traite, donc toujours dans le même sujet, de la Géoula d'Israël, qui est en fait la Géoula du monde, mais qui passe par Am Israël obligatoirement, puisque Am Israël a été conçu par l'Éternel comme étant le seul moyen, le seul passage pour sa lumière divine. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, il utilise le canal Israël. En hébreu, le canal se dit Svil. Svil qui veut dire un chemin. Et quand on dit Bisvil, c'est pas seulement pour quelqu'un, mais Basvil Shel. Par le chemin de. C'est pour ça que Rashi commence son commentaire de Bereshit. Bereshit Bisvil Israël. Que ça veut dire Bisvil Israël? Pas seulement que le monde a été créé pour le peuple d'Israël, mais par le biais, par le chemin Basvil Shel Israël, Dieu crée le monde en passant par ce qu'on appelle Israël, l'âme d'Israël. Moralité, il a fixé, c'est sa volonté, qu'à chaque fois qu'il y a sa lumière qui descend dans ce monde, qui se dévoile, elle passe obligatoirement par un canal qui s'appelle Israël. Et ça, c'est la force. Il y a un deuxième civil, un deuxième passage qui s'appelle Torah. Et Rashi ramène aussi du civil à Torah, c'est Mikra Arishit. La même chose. Et les sages nous disent, dans le Zohar, qu'en réalité Israël et la Torah, c'est une seule chose. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'étudier un texte. Le texte et nous, c'est une seule et même chose. Donc quand on étudie la Torah, on étudie en fait nous-mêmes. On s'étudie nous-mêmes. On apprend qui nous sommes. Dans ce contexte, on continue, c'est le Raf Harlap, qui nous dit en fait, comment la Géoula va se faire? Alia mitoch yerida keitzad. Il va y avoir une montée qui va venir d'abord par une descente. C'est-à-dire qu'avant une montée, il y a toujours une descente qui précède cette grande montée. Et plus la montée est importante, plus la descente qu'il va y avoir avant va être encore plus importante. A Géoula ba'a besod tastrak. Nous dit ici le Rav une règle qu'il faut connaître. C'est que la rédemption d'Israël, la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël vient dans le secret de l'être Tashrak. Qu'est-ce que ça veut dire Tashrak? C'est tout simplement l'alphabet à l'envers. Au lieu de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on commence par Tash, Shin, Re, Kouf. Ça veut dire qu'on monte du bas vers le haut. Autrement dit, le monde a été créé du haut vers le bas, donc de Aleph jusqu'à la dernière lettre Tav, puisque le Aleph représente l'unité, mais lorsque le dévoilement se fait, il se fait à l'inverse, du dernier vers le premier. À quoi ça ressemble? Lorsque je remplis un verre d'eau, moi je verse l'eau du haut vers le bas, mais le verre, le contenant, se remplit du bas vers le haut. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait lorsqu'il nous envoie un dévoilement, lui il envoie du haut vers le bas, entre guillemets, et nous on commence à le recevoir du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula de Am Israël, bien que ce soit une lumière qui vienne du haut vers le bas, en réalité, elle commence à se dévoiler toujours du bas vers le haut. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Géoula ne peut pas au départ, prendre un vêtement de grande lumière, de choses incroyables. Elle va commencer par les choses les plus basses, par les choses les plus dans la matière. Et tout doucement, elle va laisser cette matière grossière pour arriver à des degrés de plus en plus raffinés. Donc, dans l'alphabet, le signe de la lettre la plus grossière, entre guillemets, c'est la lettre Tav, la dernière lettre. Donc elle représente en fait le degré le plus matériel de ce monde. La lettre la plus spirituelle, on va dire, c'est la première, le Aleph. Donc lorsqu'on va du Tav vers le Aleph, dans un alphabet inversé à l'envers, c'est comme si on montait du monde le plus matériel vers un monde de plus en plus raffiné. C'est le secret de la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est de monter du bas vers le haut. Et donc, quel est le mois de la Teshuvah? Tisré. Dans le mois de Tishrei, on fait véritablement Tshuva. C'est pour ça que les lettres de Tishrei, c'est Ta, Shin, Resh. Vous voyez que c'est le même ordre. Donc, on vient du bas vers le haut. Quel est le mois où c'est Dieu qui vient vers nous? Nissan. Nissan nous a fait sortir d'Égypte. La même chose là-bas, dans le mois de Nissan, là c'est inversé. Le Noun est avant le Samer. Noun Samer. Ça c'est Anil et Dodi. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend dans ce monde, il est toujours dans ce monde. Mais là il est un petit peu plus apparent. D'accord? Quand on dit Amelech Vatadeh, c'est une expression chassidique qui explique qu'Akadosh Baruch Hu se trouve un petit peu plus accessible dans ce monde. Mais le travail est toujours celui de l'homme, d'aller chercher. Elle a mis le dodi. C'est le rachetsevo de Elul. A mis le dodi. C'est d'abord moi qui fais le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le travail de l'homme, donc du bas vers le haut. Alors qu'à Nissan, on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, vous vous rappelez? Et pourtant, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, il a dépassé l'ordre naturel des choses, ce qu'on appelle là sauter par-dessus. C'est ça le secret de sauter par-dessus les maisons. C'est pas seulement sauter par-dessus les maisons, à cause de beaucoup ne joue pas à un saute-mouton, mais il a été médalègue, il a sauté par-dessus l'ordre des choses. C'est ça? Donc la Géoula va venir dans ce secret-là. La Géoula va besod tasrak. Donc vous avez bien compris que la Géoula vient du bas vers le haut avec l'ordre des lettres Taf, Sin, Kouf, Resh. Qu'est-ce que vous avez dit? Car c'est si vous chantez. Mehaglaï El Harosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pieds vers la tête. Comme ce qu'on vient d'expliquer. Donc si vous deviez donner une lettre au pied, quelle est la lettre des pieds? Taf. Et quelle est la lettre de la tête? Allez. Donc on va des pieds vers la tête. Ça veut dire que la Géoula va toujours venir maintenant du bas vers le haut, du monde matériel vers le monde spirituel. Mais Aragla et Melaros. Ve Alken, Khilat Idgaluta hi etzel hachitsonim. C'est pour ça que son dévoilement, il est chez les chitsonim. C'est-à-dire, le premier dévoilement de la Torah passe toujours par quoi? Par ce qu'on appelle les forces extérieures. La Géoula apparaît d'abord dans les choses les plus superficielle. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, dites-le-moi. Ça veut dire que quand Dieu descend dans ce monde, qui va le recevoir en premier en fait? Vers qui il va aller pour la Géoula? Qui va apparaître au départ de cette Géoula? Les choses les plus matérielles, donc extérieures. Si on devait par exemple donner le corps humain, quelle est la chose la première que tu rencontres lorsque tu vas quelque part? Qui ressent en premier les éléments dans lesquels tu rentres? Ton corps, d'une manière générale, d'accord? Avant ta neshama. C'est-à-dire, même si ta neshama a reçu quelque chose, tu n'es pas encore conscient. Ça passe d'abord par ton corps. Ça veut dire que le premier contact que nous avons, il vient d'abord du dehors. Quand je te serre la main, je touche d'abord ton corps, ta main, et après cela, je commence à te connaître. Donc le contact commence toujours par l'extérieur et il vient tout doucement vers l'intérieur. Donc à première vue, les choses qui apparaissent, apparaissent d'abord dans leur corps. Un autre exemple. Lorsque Dieu crée Adam Harishon, qui apparaît en premier? Son corps ou son âme? Son corps. Vaïser Hashem Elohim et Adam afar min ha'adama. Au départ, c'est quelque chose de très grossier, c'est de la poussière de la terre qui est créée. Et tout doucement, une fois que cette force du corps est créée, va y par be'apav nishmat chaim, après il y a la neshama qui est insufflée en lui. Vous êtes d'accord avec ce processus? Nous disent les chachamim, si c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, lorsque la Géoula va apparaître, elle va apparaître exactement dans le même rythme. À savoir, ça va commencer par les choses les plus matérielles, les plus basses, et tout doucement vont monter vers les choses les plus raffinées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qu'on est en train de dire maintenant?
Non,
c'est pas un peu... Les choses les plus matérielles aussi. Par exemple, la Géoula de Am Israël, dans laquelle on commence à ressentir les fruits de cette Géoula. Elle a commencé par quoi d'abord? Nachon, un rassemblement de la masse pas religieuse forcément, qui est venue, qui a commencé à construire quoi? Des yeshivotes? Non. Des choses aussi très matérielles, mais utiles. Premier degré, s'occuper de la terre, construire des routes. On est d'accord avec ce rythme? Donc vous voyez qu'en réalité, tout doucement, plus on va avancer dans le processus de Géoula, qu'est-ce qui va apparaître de plus en plus? Non. On va quitter le matériel. On a commencé par le matériel, mais tout doucement, plus on avance vers quoi? Vers l'Anéchama. On est d'accord? Ça veut dire que plus les années passent, plus le peuple va rechercher maintenant des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus intérieurs, au niveau de l'Anéchama, alors qu'au départ, on se suffisait de corps. Okay. On peut l'utiliser. Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. Plus le mitzvot, plus la tfila, si tu veux. D'accord? Au départ, c'est pas ce qui attire l'homme. Je vais donner un autre exemple. Quand un bébé naît, un enfant, tu commences d'abord par lui donner des jouets ou des tfilin? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de choses très extérieures, très basses, basiques, au départ. On ne peut pas commencer, un petit bébé qui vient de naître, de commencer à lui rentrer de la Torah, des mitzvot, des ma'asim tovim. Ce n'est pas son monde. Donc lui aussi, son tahalir, son processus de Géoula privé, car lui aussi, chaque chose passe un tahalir de Géoula, un processus de délivrance, lui aussi va monter de son monde le plus bas, à jouer au bi, au départ, jusqu'à être capable de s'asseoir dans une yeshiva pour étudier la Torah. Combien d'années il vous a fallu pour arriver à vous concentrer, à vous asseoir dans un cours? Beaucoup de temps. Au moins 18 ans, d'accord? Au départ, vous avez envie juste de jouer. Ça vous intéresse pas tellement le côté spirituel des choses. Alors on commence d'abord par le côté matériel. Est-ce que c'est négatif? Non. Ça fait partie du processus de la vie. Moralité, tout ce qui va apparaître dans ce monde a le même rythme et le même ordre. Ça commence toujours par le côté extérieur, donc matériel, et ça va tout doucement vers le côté spirituel intérieur. C'est bien, c'est pour ça que je dis que c'est en valeur, en rapport avec ce que tu es. Donc c'est pas négatif. C'est bien. Est-ce que le matériel est négatif? Non, c'est pas négatif. Qui te dit que le matériel est négatif? Où t'as vu une chose pareille? Où t'as vu une chose pareille? Dans quelle Torah? Ça veut dire qu'ils sont pas d'accord. Ils ne mangent pas, ces gens-là? Pourquoi ils mangent? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le matériel elle me donne la possibilité de trouver à l'intérieur, mais au départ, ces gens-là, les mêmes qui te disent ça, ils sont obligés de bien se nourrir. Non, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Que quoi? Ken. Ça, ce sont les nations, les exils, en fait. Ken, les exils représentent, les sages les ont représentés par des animaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le matériel n'a rien de négatif. Dans le judaïsme, le matériel n'a rien de négatif, mais il va falloir savoir l'utiliser. Il ne faut pas tomber dans le matériel, tam. Il va falloir prendre le matériel et l'utiliser dans le bon sens. Mais lui, le matériel, en tant que tel, n'est pas mal. S'il était mal, ça veut dire que Dieu a créé quelque chose de mal. Et en fait, toi-même, tu le dis. Donc le matériel n'est pas mal. Il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Du bas vers le haut, du léger vers le lourd. Okay. Donc tu commences par des choses qui sont un petit peu plus en rapport avec ton niveau d'aujourd'hui. Hein, quelqu'un qui rentre à la yeshiva, on va pas le bourrer de lumière, il va devenir fou. On lui commence à lui donner des choses très techniques, basique. Et tout doucement, il va monter, il va rechercher des choses un petit peu plus profondes, jusqu'au moment où il va rechercher vraiment la profondeur des choses. Tout est comme ça dans la vie. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la vie qui représentent ce qu'on vient de dire? On l'a déjà donné dans plusieurs sens. Est-ce que vous avez encore des exemples, par exemple? Le retour mental, on en a parlé. Au départ, c'est très matériel, c'est-à-dire on construit des choses très très matérielles qu'on a besoin, et tout doucement, on va vers le spirituel. Mais d'autres exemples, est-ce que vous avez dans la vie? Bismillah. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est l'exemple de Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. C'est bien parce qu'il fait un petit peu plus loin, mais quelque chose de plus concret. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans un mariage, par exemple? Il a fait exactement. Quand tu rencontres quelqu'un, et en l'occurrence une femme, que tu veux te marier avec elle, au départ, ce que tu vois de cette femme, c'est quoi? Sa neshama ou son corps? Son corps. C'est la première chose que tu vois. Donc en réalité, elle t'a plu entre guillemets extérieurement, mais tu peux pas t'arrêter là. Tout doucement, tu apprends à la connaître. Donc tu vas la voir, tu vas la rencontrer, tu vas parler avec elle et va se dévoiler en fait sa neshama. Donc la même chose, tu as vu en fait en extériorité, mais tu es bien d'accord qu'avec ça tu peux pas construire une vie. Et tout doucement, tu essaies de découvrir son intériorité. C'est vrai? Il a fait, c'est un bon exemple. Est-ce que vous avez d'autres? La vie courante, tout ce que tu veux, t'as pas à aller chercher très loin. Toute notre vie, elle est comme ça. L'étude de la Torah, c'est-à-dire, on en a parlé un petit peu. T'es obligé de commencer par du tchat, par des choses un petit peu qui régulent ta vie de tous les jours, savoir la halakha, comment marcher dans la vie, et tout doucement, tu vas découvrir des secrets. D'accord? Le pardes, tchat, remes, drash, sol. Ok? Et vous pouvez imaginer, dans tous les domaines de la vie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer dans un travail, au départ, on va vous expliquer en fait comment ça marche. Et tout doucement, quand vous allez commencer à travailler, vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce travail, comment les choses se voient de l'intérieur. Donc, la Géoula, je répète, on fait une conclusion, elle se passe de la même manière. Trilat Yidgaluta Hi Etzel Hachitsonim. Donc le début de la Géoula va se voir, alors qu'on ne pense pas que c'est comme ça, mais le début de la Géoula va se voir d'abord dans les parties les plus bachout, extérieures, Mehapsia Dilibar, c'est-à-dire comme un pied qui sort de l'extérieur, c'est une expression en hébreu, Psia Milibar, Psia Dilibar, c'est comme la lettre V. La lettre V, elle est écrite comme un dalet, et un petit pied qui sort. C'est-à-dire que ceux qui écrivent des chiffres Torah, quand ils font le petit pied du Hé, est-ce que vous imaginez la lettre Hé, dans le petit bout qui est à l'intérieur, il y a comme un pied qui sort. Qui sort vers quoi? Vers la prochaine lettre. On appelle ça Psi'a Dilbar, c'est-à-dire c'est comme un pas en avant, un pas vers l'extérieur, vers autrui. D'accord? Donc tout commence par le pied, qui est la partie basse, mais vers l'extérieur. Ot Hatav, la même chose comme la lettre Tav. La lettre Tav, elle aussi, elle a ce petit pied qui va de l'extérieur. Donc la lettre Tav représente ici en fait la lettre la plus extérieure, la plus matérielle. Et on va revenir en arrière. Donc Tav, après Tav, qu'est-ce qu'il y a? Sin. On remonte. Après le Sin, Res. Après le Res, Kouf. Donc on a écrit le mot Tasrak. C'est un alphabet inversé, Tasrak, qui veut dire en hébreu, dans le sens le plus simple, qu'est-ce que c'est l'Isrok? Anisorek, qu'est-ce que ça veut dire? Siffler. Okay? Et c'est un secret que le prophète dit, je sifflerai pour les rassembler. C'est comme s'il y avait un sifflement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant vous comprenez ce que c'est ce sifflement, c'est pas dans le premier degré, c'est pas que Dieu va nous faire qu'un revenait. Ça veut dire qu'en fait, il va nous faire revenir d'une manière évolutive, tout doucement, des parties les plus lointaines, grossières, matérielles, jusqu'aux parties les plus racinées de nous-mêmes. Est-ce que les choses sont claires? Ok. Donc, en fait, La lettre Tav représente la dernière lettre de l'alphabet. Je vous pose une question, essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav? Du blanc. Pourquoi le blanc? Ok, mais maintenant, revenons, on est en train de descendre. Imaginez-vous dans une échelle du haut vers le bas. La lettre première, c'est le Aleph. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Eiva, Zain, Tet, Tet, Yutra, Flamed, Mem, Nun, Tamer, Chaim, Tet, Tzadik, Kouf, Tav. Qu'est-ce qu'il y a fait? On va regarder un Aleph. Ma? Tu as dépassé les voyelles. En admettant qu'elles ne sont pas, parce que les voyelles sont déjà à l'intérieur, c'est des lettres doubles. Aussi. On a tout fini. On arrive à la lettre Tav. Qu'est-ce qu'il y a après? Et donc, qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav, donc? Adama. Ça veut dire qu'en fait, les sages nous disent qu'il y a le monde qu'on appelle le monde des clipotes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? Les écorces. C'est-à-dire le monde négatif. C'est-à-dire après tout l'édifice du Kodesh, du Aleph jusqu'à Tav, commence en fait un monde qu'on appelle le monde des écorces. Qu'est-ce qu'il représente, ce monde-là? Quel est son rôle? D'un côté, il protège, mais d'un autre côté, il cache, comme une écorce. Donc, il nous cache de la lumière. Quelqu'un qui tombe dans ce monde, Chas v'Shalom, quelque chose de très négatif, parce qu'il a du mal à rester dans le codé, il tombe dans les clipotes. Il descend de sa lumière, c'est de la tête vers les pieds, mais quand la lumière apparaît, c'est des pieds vers la tête. Veze, inyana, plukta. Et ça, c'est en fait la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous connaissez cette Gemara dans Rosh Hashanah? La Gemara dans Rosh Hashanah pose la question, il y a deux rabbanim qui se discutent entre eux. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé dans le mois de Tisré ou dans le mois de Nissan? D'accord? Ça c'est la discussion. Rabbi Yehoshua a dit que le monde a été créé quel mois? Nissan. Rosh Hashanah Daf Yud. Et Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé à Tisré. Ça vous paraît normal cette discussion? Hein? C'est contradictoire. Ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui paraît anormal dans cette contradiction entre les deux? Mais si je l'ai expliqué, vous devez savoir, sinon c'est un mauvais maître. Ok, mais d'abord quelque chose de basique. Qu'est-ce qui vous choque déjà? Est-ce que le monde a été créé à Nissan ou est-ce qu'il a été créé à Tisré? Ça vous pose pas un problème? Vous oubliez l'essentiel. Est-ce qu'il y a un temps avant la création du monde? Comment il peut créer le monde dans un temps? Ça n'existe pas encore, ni le mois de Tisré, ni le mois de Nissan. Non. Alors quoi, Dieu a créé le monde quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu touches un petit peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une discussion entre deux sages d'un temps qui n'existait pas encore? De la qualité que va représenter ce temps lorsqu'il existera. C'est-à-dire, quel est le sens de la création? Est-ce que ça va ressembler à ce que après va ressembler plutôt au mois de Nissan, ou est-ce que ça va ressembler au mois de Tisré? Est-ce que c'est clair ce que je vous explique d'une autre manière? Vous n'avez pas compris? Ça veut dire que chaque mois a une qualité. On a dit tout à l'heure, Tisré, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Il a fait. Tafinres, Nissan, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du haut vers le bas. Ça veut dire que quand les deux sages discutaient en fait de la création du monde, ils ont discuté de quoi en fait? Est-ce que le monde va être créé du haut vers le bas ou est-ce qu'il va créer du bas vers le haut? Comment ça va apparaître? Est-ce que c'est l'homme qui va faire les choses ou c'est Dieu qui fait les choses? Du haut vers le bas, ça veut dire que c'est Dieu qui fait sans nous demander quoi que ce soit, c'est du haut vers le bas. Donc Nissan, comme la Géoula de Nissan, il nous a fait sortir des îles sans rien nous demander. Or, ou alors, comme tu serais, que nous, on fait un travail de la tshuva de venir du bas vers le haut. C'est ça la discussion de nos sages. Est-ce que c'est clair ou j'explique encore? C'est clair? Ok. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ne discutait surtout pas de quoi? D'un temps. D'une date. Il n'y avait pas de date encore. Donc, leur discussion est très profonde. Elle est en fait dans l'idée que va représenter le mois de Tishrei et dans l'idée que va représenter le mois de Nissan. Je vous pose la question autrement maintenant. Le mois de Nissan qui va venir. Donc, on est bientôt le mois de Hadar, Be'ezrat Hashem. Après, il y aura le mois de Nissan. Quelle est la qualité de ce mois? Qu'est-ce qui se passe dans le mois de Nissan? D'accord, ça c'est un truc spécial. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mois? Quelle est la qualité du mois? D'après ce qu'on vient de dire, ne vous sauvez pas du texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'activité essentielle est une activité divine? Ou est-ce que l'activité essentielle est une activité humaine? D'accord, mais est-ce qui fait le travail dans le mois de Nissan? L'homme ou Dieu? Non. Mais non. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous de la sortie d'Égypte. Il est venu, il nous a tiré de là-bas comme un bébé qui était dans le ventre de sa mère. Donc il nous a fait un accouchement, il nous a tiré de là-bas. C'est la même chose. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'histoire, tu dis dans la Torah, c'est en fait une allusion de tout ce qui va se passer durant toutes les générations. C'est-à-dire que c'est une force qui est liée au mois. Le mois de Nissan, il a toujours la même force durant toute l'histoire. C'est toujours une bonté de Dieu, malgré le niveau dans lequel on est. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura le mois de Nissan dans la vie du peuple d'Israël, il va se passer toujours la même chose. C'est que Dieu va venir, malgré nous, même si on ne mérite pas vraiment, il va nous faire sortir d'un degré de zut dans lequel on se trouve. Là-bas, c'était le zut, ça peut être dans sa vie. Il y a une possibilité de sortir des zuts et Dieu vient nous faire ce travail. Ça, c'est le mois de Nissan. Donc, comme vous avez dit, il nous a fait sortir d'Égypte, après il nous a donné la manne, et c'est tout qui vient du ciel. Vous vous rendez compte de ça? Le mois de Tishrei, qui fait le vrai travail? C'est l'homme. Tu vas prier, tu fais tshuva, tu commences à jeûner, tu fais des efforts. Là, tu vois que c'est l'homme qui fait le travail. Vous comprenez la différence? Donc, en fait, la discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle était en fait, qui doit faire le véritable travail dans ce monde? Est-ce que c'est Dieu qui fait le travail ou est-ce que c'est l'homme qui fait le travail?
On voit dans le statut, dans le
désert, c'est là, mais c'est un travail qui est quand même minimum. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le désert, vraiment? Pas grand-chose, d'accord? On n'a même pas allé acheter des vêtements, ils grandissent avec nous. On n'a même pas allé véritablement chasser ou quoi que ce soit, la manne nous tombe du ciel. On n'a pas à aller puiser de l'eau, il y a le puits de Myriam qui nous suit. On est entouré avec des nuées protectrices, donc c'est Dieu qui nous fait tout le travail. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? On ramasse la main, c'est tout, il ne reste pas grand-chose. Des quoi? Des avadim. Où tu as vu des avadim? Ça c'est après ça. Ça c'est ce qui connaît Eved Ivri, lorsque tu auras un Eved Ivri, ça veut dire quoi? Qui fait véritablement le travail en fait pendant tout le désert? Mais qui a commencé quand? À Nissan? C'est Dieu. Quand est-ce que les sols vont changer? Que c'est plus Dieu qui fait le travail mais l'homme? On est en train de parler d'histoire maintenant. On est sorti d'Égypte. Pendant le désert, c'est Dieu qui fait le travail. Je viens de vous donner plusieurs preuves. Bien fait, quand on rentre en Eretz Israël. Quand on rentre en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'arrête tout de suite? La manne s'arrête. Le puits de Myriam s'arrête. Les nuées s'arrêtent. Tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ça veut dire que c'est à nous à travailler. Alors d'après vous, c'est mieux le désert ou l'entrée en Eretz Israël? Pourquoi? Parce que on vous a dit ça, vous êtes devenu sioniste. Il y a plus de kiff dans le désert, soyez honnête. Ah, ça veut dire qu'en réalité, tu es encore un bébé quand tu es dans le désert. Donc on fait tout pour toi. Mon bébé, quand j'ai un petit garçon qui naît, Et je vais le nourrir, je vais le changer, je vais le laver, je vais tout lui faire. Il est au courant de rien, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais quand il devient grand, il me permet de rentrer avec lui à la salle de bain pour le laver. Il va me dire, ah bah, c'est mes pauvres. Ça veut dire qu'en réalité, quand on devient adulte, qu'est-ce qui se passe? Dieu arrête un petit peu de faire le travail pour nous, et c'est nous qui commençons à faire le travail. C'est Alors vous comprenez, en fait, la discussion, c'est juste pour vous expliquer la discussion entre ces deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ok? Donc Rabbi Yoshua considère qu'en fait, le monde a été créé à Nissan, ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout le travail, et Rabbi Eliezer considère que c'est à Tisré, ça veut dire que c'est à l'homme de travailler, c'est à lui de bosser. Rabbi Eliezer Omer Betisré, Atidin Egel. Et donc, pourquoi ils avaient cette discussion? Parce que la discussion continue entre les deux sages. Rabbi Eliezer dit, vous savez, comme le monde a été créé à Tisré, la Géoula aussi, elle va se passer quand? Tisré. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après lui? Que la Géoula, elle va dépendre de quoi? De quoi? Oui, de quoi? Il a fait, non, de nos efforts, de Teshuvah, Tasrak. Vous avez compris ce qu'ils veulent dire, les sages? C'est pas des enfants qui discutent quand est-ce que le monde a été créé, à quelle date. Ils ne sont pas à ce niveau-là, Baruch HaShem. Ils sont en train de nous dire, et nous on doit être intelligents, de comprendre là où ils veulent nous amener, quelle va avoir la couleur de la Géoula? Est-ce que dans la Géoula, c'est nous qui allons bosser, ou est-ce que c'est Dieu qui va venir comme ça avec des je sais pas moi, une armée d'anges qui va descendre, on va dire, ah. Donc Rabbi Eliezer considère que c'est à nous de faire le travail. Rabbi Yoshua nous dit, Omer, Benissan Atidin Igel, quand est-ce qu'il va avoir la Géoula? Nissan, ça veut dire que la Géoula, même à la fin des temps, elle sera miraculeuse, indépendante de nos actions, comme c'était en Égypte. Et donc, une discussion entre deux écoles. Hein? Alors, il faut comprendre un petit peu, là, on rentre pas dans cette gmara, qui a raison? Est-ce que c'est Rabbi Yoshua, qui aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme Rabbi Yoshua? Ou Rabbi Eliezer, et il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent comme Rabbi Eliezer. C'est pour ça que vous avez des discussions entre ceux qui vous disent « Nous, on fait rien du tout, on attend que Dieu vienne nous chercher. » Et certains disent « Non, moi je suis obligé de faire pour préparer la Géoula. » Deux degrés. Est-ce que ça peut être les deux à la fois? Bien entendu. N'importe. Il y a un travail qui est en fait doublé, couplé, et c'est très 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 fin. Maintenant on n'étudie pas cette gemara, mais c'est très important de comprendre. Ou même voir de Sarah Kavanot. Maintenant, le Rav Harlap. Okay. Vous savez qui c'est le Rav Harlap, en fait? Si vous ne me demandez pas, c'est que vous savez.
Non.
Après, vous ne me demandez pas. Et vous entendez des noms comme ça, et j'aurais pu vous dire Rav Boulgoud, c'était la même chose. Quoi. Pourquoi vous ne posez pas la question? Qui c'est le Rav Harlap? D'où il sort celui-là? Je vous amène un texte, vous ne savez même pas qui c'est. On n'en a rien à faire, on fait confiance au Rav, qui nous amène un Rav. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le quartier, je l'amène ici. Qui c'est ce Rav? Peut-être qu'il nous dit des bêtises. Qui c'est ce Rav? C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Arav. Mais pas aujourd'hui, du temps du Rav Kook. Merkaz Arav, juste à côté. Le Rav Kook, c'était le Rosh Yeshiva. Mais qui donnait des cours là-bas, véritablement, toute la journée? Le Rav par là. Voilà. Donc c'est un gaon, c'est un gadol. Okay. Maman, c'est un gadol ador, un des grands de la génération. Et donc il nous explique ici, et là il nous amène des choses un petit peu plus profondes au niveau de la Kabbalah. Et il nous dit, Umevoar Besar Akavanot, il est dit dans ce qu'on appelle la porte des Kavanot, des directions pensées. Qui c'est qui a écrit Besar Akavanot? C'est un livre de Kabbalah. Le Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Quel? Le Hari Akadosh. Vous savez son nom? Rabbi Yitzhak Luria. Alav Shalom. Ashkenazi. Son nom de famille. D'accord? Alors lui, il a écrit un livre par son élève, et l'élève a écrit, et il nous dit, dans Inyan Rosh Hashanah, Drush Aleph, il nous explique là. Donc le Rav Harlap amène en fait un livre de Kabbalah comme référence à ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? Veze medaber bepnimiut, veze medaber bechitsoniut. Donc je vais vers ce que tu es en train de dire. Les deux ont raison, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, seulement l'un parle de quoi? Non. Du processus dans son extériorité, et l'autre parle du processus, du même processus, mais dans son intériorité. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer? Qui va faire le travail, vraiment? C'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Dans l'extériorité.
C'est...
Non. Du bas vers le haut. Donc c'est seulement qui, Rabbi? Yehoshua. Donc Rabbi Yehoshua parle en fait de, du processus de l'extériorité. Et Rabbi Eliezer parle du même processus qui aura lieu au même temps, mais quel Rabbi Eliezer? Et il aura, quand est-ce que ça va être? En fait, lui, il parle du processus intérieur qui lui vient du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas. Et tous les deux ont raison. Bien fait, peut-être. Ça veut dire qu'en réalité, les deux sages disent exactement la même chose qui va se passer en même temps, mais l'un voit l'intérieur du processus, alors que l'autre voit l'extérieur du processus. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je remplis avec une carafe d'eau un verre d'eau. Qui a raison? Est-ce que l'eau vient du haut vers le bas ou est-ce qu'elle vient du bas vers le haut? Les deux. Elle coule du haut vers le bas, mais elle se remplit en même temps du bas vers le haut. Vous comprenez? Donc vous avez Rabbi Eliezer, il est où là-dedans dans la carafe d'eau? Du haut vers le bas. Et Rabbi Yehoshua, du bas vers le haut. C'est la même carafe, la même eau. Le processus est en même temps, et les deux ont raison, parce que chacun regarde en fait avec un autre œil qu'on est en train de développer ici. Vous comprenez comment on étudie la Gemara? Alors si on n'étudie pas la Gemara comme ça, on peut rester dans l'erreur que quoi? Que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua discutent du temps, de la date, que le temps a été créé, que le monde a été créé. Or, la première question que je vous ai posée, quand le monde est créé, il n'y a pas encore de temps. Alors qu'est-ce que tu m'embrouilles la tête? Hein? Donc il y a un problème. Donc comprenez comment il faut étudier les choses. C'est-à-dire que ça c'est un exemple de l'étude d'une Gemara dans l'intériorité du processus. En fait, quand on fait le calcul, vous prenez tous les versets qui parlent de l'arche de Noé, vous vous apercevez qu'il s'est passé un an. Où est-ce qu'il s'est passé un an? Dehors. Et dedans? Il ne s'est rien passé. Incroyable. Il y a marqué à la fin du texte que Noé, en sortant de la Teva, avait 900 ans. Alors qu'il est rentré à la Teva à 600 ans. Et qu'il a vécu 300 ans après être sorti. Alors quand est-ce qu'il est resté dans la Teva? Il n'y a pas de temps. C'est bizarre. Mais il y a un problème, ça veut dire que c'est pas un problème, c'est une réalité. Dans le monde de l'intériorité, le temps n'existe pas. Alors que dans le monde de l'extériorité, le temps existe. C'est bien? Nous sommes dans un monde extérieur. Et donc on a l'impression que les choses existent extérieurement, mais en réalité c'est faux. Okay? C'est intérieur. Excusez-moi. Allô? Shalom? כן, אתה יודע איך להיכנס לבית? איפה אתה? בסדר, אוקיי, אוקיי, אז אתה יודע איך להגיע לשם? אז תתקשר אליי, אני אדריך אותך. לא, אני, אבל אישה אותי, יש מי שהיא שם. תודה רבה, תודה. סיימה. Donc, en fait, tout se passe comme ça dans notre vie. Par exemple, fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant à Tzfat. Vous y êtes? Combien de temps ça vous a pris? Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans votre pensée, le temps n'existe pas. Quelqu'un qui rêve, combien de temps ça lui prend un rêve? Rien du tout, même pas une dizaine de secondes. Dans l'appareil qu'on vous a branché quand on fait une thèse du sommeil, ça vous fait... Et toi, quand tu vas te réveiller, combien de temps tu vas raconter? C'est ce que j'ai rêvé cette nuit. Depuis que j'étais de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai couru à droite, à gauche, incroyable, je suis crevé. Et on va te dire, tu sais combien de temps ça t'a pris tout ça? Rien. Même pas une dixième de seconde. Donc il y a un domaine où le temps n'existe pas, et il y a un domaine où le temps existe. En fait, Rabbi Yehoshua nous parle du domaine où le temps existe, parce qu'il voit les choses de l'extérieur, et Rabbi Eliezer nous parle de l'âme des choses, où les choses, en fait, sont beaucoup plus subtiles et elles ne prennent pas de temps. C'est vrai? Voilà. Donc en réalité, il y a cet accouplement à faire, cette combinaison à faire. La prochaine fois, on continuera à développer ce système. Tadarabah.